Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré le contexte et les nouvelles qui s'accumulent, pas toujours celles qu'on aimerait entendre, bien sûr. Vous avez sans doute entendu les messages hier après-midi du premier ministre, du ministre de la Santé et de cette médecin responsable, donc, de la priorisation des hospitalisations et surtout des opérations du fameux délestage, la docteure O'Patterney. En gros, les faits sont assez impressionnants. Et là, on est en train de mettre en branle le protocole de priorisation des hospitalisations. Et ça, c'est un protocole national. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément entendu parler. On le voulait pas forcément non plus, parce que je vous avoue qu'on comprend que le fait d'enclencher ce protocole-là, c'est parce qu'on est rendu à un cas où on n'est plus capable de gérer les hospitalisations. La pression sur le système de santé à cause de la COVID est vraiment très importante. Je pense qu'on l'a dit, là, l'heure est grave et il y a malheureusement encore des gens qui doutent de cet état de fait pour toutes sortes de raisons. Mais il y a un moment donné, il faut se ranger devant l'évidence quand tous les experts, tous les médecins, ceux qui sont sur le terrain le disent et quand aussi un nombre important de citoyens, des patients, peut-être vous qui m'écoutez d'ailleurs, commencent à faire les frais de la COVID et faire les frais justement de ce délestage, c'est-à-dire, vous avez compris ce que c'est que le délestage, on ne vous soigne pas parce qu'on est occupé à soigner des patients COVID. Ça, c'est grave parce que ça peut vous toucher, ça peut toucher un de vos proches. C'est grave dans un contexte aussi plus global d'un système de santé qui s'est toujours voulu au Québec équitable, juste, sans égard à votre situation ni financière, ni sociale. Ici au Québec, là, tous les citoyens sont normalement égaux en matière de soins de santé. On choisit pas selon que vous êtes bien placé dans la société ou pas. Vous êtes soigné parce que vous devez être soigné. Or, ça, là, les amis, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est en train de changer, ça. On est en train donc de brasser solidement des piliers fondamentaux de notre système de santé et plus largement de notre société. On veut pas commencer à vivre dans une société, moi ça m'inquiète au plus haut point, une société qui dirait « Ok, toi tu te fais soigner parce que j'évalue avec mon petit comité que tu as plus de chances de survie. Toi, plate, toi j'évalue que tu en as moins, donc désormais prends ton ticket puis va faire la queue, peut-être que tout à l'heure on s'occupera de toi. » On veut pas ça, on veut pas en arriver là. Or j'ai l'impression que c'est ça là, qui se pointe et je comprends la gravité du ton de la part du ministre de la Santé, de la part du premier ministre du Québec, qui ne sait plus comment nous le dire, de suivre les consignes, et de la part de cette médecin, la docteure O'Patterney. J'ai envie de vous faire entendre d'ailleurs un extrait de cette conférence de presse d'hier après-midi, avant de vous faire entendre une patiente, justement, qui a fait les frais de ce délestage.
La majorité d'hôpitaux au Québec, en ce moment, se situent au niveau maximal de délestage et réussissent avec difficulté à réaliser les chirurgies urgentes et oncologiques. Si la tendance se maintient, il pourrait avoir un dépassement des capacités des lits d'hospitalisation et de soins intensifs pour les patients, autant ceux de la COVID-19 que pour d'autres maladies.
C'est ce qu'on dit être grave parce que là, il faut enclencher un protocole, choisir, être appelé à choisir ou à partir de maintenant prioriser, reporter certaines chirurgies. C'est ce qui est arrivé à mon invitée, Véronique Gagnon, qui a 44 ans, qui devait être opérée au cœur le 11 décembre dernier. Elle a donc fait les frais d'une première vague de délestage, vous en souvenez, au début décembre dernier. Elle est avec moi. Bonjour, Madame Gagnon.
Bonjour.
Je sais que vous avez de grandes inquiétudes par rapport à cette situation et vous êtes aussi très nerveuse à l'idée de prendre la parole en public parce que vous avez déjà fait les frais de plusieurs commentaires, pardon, désobligeants, des gens qui n'ont pas aimé votre commentaire à l'effet que vous dites que ce sont en fait des gens, des covidios qui prennent votre lit aux soins intensifs alors que...
En fait, c'est pas vraiment ça que j'avais dit là, aux journalistes, c'est pas dans ces mots-là, mais bon, ça a été interprété comme ça. Puis je me dis, rendu ce que je suis rendu, bon ben garde, ouais, ça fait réagir, ben réagissez, hein,
voilà,
c'est ce que
exact.
Je disais à la base.
Et c'est peut-être pas des covidios, mais c'est certainement des patients atteints de la COVID. Et ça, vous avez raison d'être un peu frustrée de la situation. Racontez-moi votre histoire à vous, Véronique. Vous attendez une chirurgie depuis un moment maintenant. C'est une chirurgie importante. Racontez-moi un peu.
Mais en fait, moi, j'ai en 2013, j'ai subi l'ablation d'un poumon. Là, on a enlevé mon poumon gauche dû à un carcinoïde dans une bronche. Et puis, ça a fait que mon cœur s'est déplacé. Puis ça a créé une fuite à ma valve tricuspide. Donc, la valve, tu peux pas l'opérer trop tôt, tu peux pas l'opérer trop tard, que mon cardiologue m'a dit. Ça doit être opéré au bon moment. Et avant que ça devienne plus opérable aussi. Donc, à la fin de l'automne, mon cardiologue m'a appelé pour me dire qu'elle allait me mettre en communication avec la chirurgien cardiaque. Alors, tout est allé très vite. J'ai tout fait mes examens préopératoires. Tout était en branle. Ma mère était venue à Montréal pour me relever. Tu sais, c'est beaucoup d'organisation puis beaucoup de préparation mentale aussi, parce que c'est une opération à cœur ouvert, c'est quelque chose de gros à traverser. Et puis, à deux jours de l'intervention, ma chirurgienne m'a appelée, elle était vraiment découragée de m'apprendre ça. Elle m'a appelée elle-même pour me dire que je faisais partie du délestage. Donc, c'est très, très, très angoissant.
C'est ça, les sentiments qui vous habitent aujourd'hui, c'est de l'angoisse, c'est aussi la peur de mourir, Véronique, parce que votre opération est nécessaire à votre vie. Il y a un risque que votre cœur se dégrade.
Oui, mais tu sais, on va tous mourir un jour. Hein. C'est plus le fait que j'ai peur que... parce que ma valve pourrait être réparable, mm-hmm. Mais s'ils sont pas capables de réparer, ça va être... il va falloir la changer, ce qui va m'amener des plus grosses répercussions. Là, tu es obligé de prendre des anticoagulants toute ta vie, tout ça. Donc, c'est sûr que moi, je veux pas perdre la chance qu'il soit capable de seulement la réparer. Mm-hmm. Peut-être qu'il réussira pas quand même à réparer, là, mais tu sais, moi, je vois mes chances diminuer, je veux pas. Oui, c'est sûr, quand on me l'a annoncé, c'est le mot « mort » que j'avais dans ma tête, là, même si je sais que mes médecins vont pas me laisser mourir. Mais dans le fond, mon article, c'était pour lever la voix pour les... Je sais, je suis pas toute seule, on est quoi, 140 000, je crois, ouais. Chirurgie retardée. Je sais que je suis pas toute seule, mais c'est pour ces gens-là, dans le fond, que j'ai décidé, que j'ai accepté de livrer mon témoignage pour montrer que ça peut arriver à tout le monde. Oui, à des personnes plus âgées, à des personnes plus jeunes comme moi, et à des encore plus jeunes, tu sais, tout le monde, dans tous les âges, on attend des opérations nécessaires. Mais ce que je veux faire comprendre dans mon message, c'est s'il vous plaît, ayez un peu de conscience, de aider le personnel soignant. Puis c'est terrible pour eux aussi, là. C'est terrible pour les patients qui attendent une opération, mais également pour le personnel de la santé. Moi, je leur lève mon chapeau, là. Puis j'ai entendu plein d'histoires, là, qu'il y en a qui sont plus capables puis qui laissent la profession parce que c'est un trop-plein.
Oui, non, tout à fait. Mais dans votre cas, vous parlez au nom là, de tous ces gens qui sont délestés, qui vont l'être au cours des prochaines semaines. On parle même là, de plusieurs années pour récupérer ce rattrapage, ce délestage. Donc, c'est sûr
oui, que... Oui, puis je parle aussi les gens. Imaginez quand tu es en attente d'une greffe d'organes.
Ah oui.
Y a-t-il quelque chose de plus stressant? Les gens qui ont des gros cancers, je sais c'est quoi se faire annoncer qu'on a un cancer, je suis passée par là aussi. Tu veux juste le faire enlever le plus vite possible de toi, cette bébite-là, là, si tu n'en veux plus en dedans. Fait que là, en plus, faut que tu attendes puis tu sais pas jusqu'à quand.
Ouais.
C'est tellement d'angoisse, puis on s'entend que l'angoisse, ben ça aide pas sur la maladie. Fait que c'est comme une roue qui tourne, là.
Et surtout que, dans votre cas, Véronique Gagnon, vous avez tout fait, vous, depuis les derniers mois. Et le temps est très long, là. Les mois s'accumulent et ça sera bientôt un an, là. Vous avez tout fait pour vous préserver, là, pour faire en sorte que oui. Vous ne contractiez pas la COVID, de ne pas la transmettre à d'autres non plus, ou que vous seriez porteuse. Bref, vous avez vraiment respecté à la lettre toutes les consignes. Vous n'avez pas vu votre fils depuis longtemps.
Bon, parce que mon fils, il est barbier, il travaille dans un salon, puis il est en contact avec les gens, il est dans le public. Donc lui non plus, il veut pas me contaminer, tu sais. Il tient à moi, il fait attention, puis il vit beaucoup de frustration aussi par rapport à tout ça là. Et il voudrait bien que sa mère comment se sauve de ça, mais tu sais, c'est. Puis il y a ma famille, mes parents qui sont plus jeunes, qui sont malades aussi, ma soeur, tu sais, j'ai tout mon monde, mes amis, qui, comme je veux que les gens comprennent, je sais que je suis pas la seule dans cette situation-là. Je veux juste faire prendre conscience aux gens de comment, ben moi, comment je le vis, mais comment plein d'autres personnes le vivent aussi, puis qu'il faut que ça bouge, il faut qu'il se passe quelque chose, parce que là,
Quand vous entendez dire, par exemple, les médecins et les ministres et les premiers ministres, comme hier après-midi, qu'on en est rendu à être obligé de faire des choix difficiles, là, dans votre cas, évidemment, on parle de délestage, de report, d'opérations qui peuvent aggraver, d'ailleurs, votre état de santé général pour l'avenir. Mais on parle aussi peut-être même de dire, ben, il y a des gens qu'on va devoir dire, ben, on va choisir des gens qui ont plus de chances de survie que d'autres. Ça veut dire qu'on commence à choisir qui a le droit de vivre puis qui peut mourir. Est-ce que ça vous inquiète, ça, de vivre dans une société comme celle-là?
Ça m'inquiète et mais je voudrais dire que par-dessus tout, ça, c'est beaucoup de frustration quand on écoute les nouvelles puis qu'on voit les gens que, parce qu'après 20 heures, ils peuvent pas sortir, ils vont promener leur conjoint en laisse, là, t'sais. On est rendu là, ouais. Franchement.
Ouais.
C'est décourageant, honnêtement, ouais. Là. Je suis certaine, en plus, que la majorité des gens qui sortent dans la rue après 8 heures, là, ben, avant le couvre-feu, ils sortaient même pas. C'est juste la contradiction, là.
Ouais, juste pour se rebeller par rapport à ce qui nous semble une brimation, une privation de droit. Véronique, oui. Je vous souhaite de pouvoir recevoir un appel qui vous replace à nouveau. Là. Vous êtes la priorité, en tout cas, apparemment, de votre chirurgienne. Là. Vous êtes la première sur la liste, si on peut...
C'est ce qu'on m'a dit.
Oui.
J'espère bien. Je prie tous les jours. Je vois plus la vie de la même façon, hein, évidemment. C'est déjà dur d'être confinée, quand en plus... Faut attendre après ça, là, c'est. Mais heureusement, j'ai une belle équipe de travail qui m'encourage beaucoup, puis j'ai un bon employeur qui nous permet de travailler de la maison, donc ça me sauve là par rapport à ça.
Parce que vous devez continuer de travailler pareil, hein, c'est ça?
Oui, oui.
Ouais. Quand vous dites je vois plus la vie de la même façon, ça veut dire quoi?
Ben, c'est. On réalise plus les petites choses de la vie, là, l'importance des petites choses. Avant la COVID, on prenait beaucoup de choses pour acquis.
Mm-hmm.
Que maintenant, toutes les petites choses sont merveilleuses. Moi, j'ai juste hâte que mon fils vienne chez moi faire un souper, puis tu sais, une petite chose bien banale, là, mais ça me manque. C'est la chaleur humaine, le côté humain, évidemment. Là, c'est difficile. Puis, tu sais, je me dis, si je suis capable de m'en être passée depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, puis je vais l'être encore jusqu'à encore un bon bout, bien, je pense que les gens qui respectent pas le couvre-feu, puis là, tu sais, je parle juste de eux, là, mais il y a d'autres, tu sais, les voyageurs, il y a plein d'exemples là, qu'on peut donner. Il me semble que c'est comme les parties de Noël. Ça n'aurait pas été difficile de se passer de Noël. Là. Noël, il ne va pas mourir, il va être encore l'année prochaine.
Oui, exactement.
Tandis que grand-papa, grand-maman, ben les autres, ils ne seront probablement pas.
Ouais. Véronique, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. J'espère que votre message va porter, va influencer un peu les gens qui sont encore réfractaires au discours ambiant. Véronique Gagnon, je vous le rappelle, est en attente d'une chirurgie cardiaque. Sa chirurgie a été reportée, donc elle doit vivre en ce moment avec un seul poumon fonctionnel. Et bien sûr, elle vient de nous le dire avec beaucoup de sensibilité, de justesse. Elle craint que ce délestage et que ce protocole de priorisation la priorise pas tout de suite, justement. C'est le cas de le dire, qu'on soit tellement occupé dans les hôpitaux, en soins intensifs, à s'occuper des gens qui ont la COVID, qu'on n'a plus le temps pour s'occuper des autres. On garde ça en tête aujourd'hui. Merci encore à Madame Gagnon. On va s'arrêter ici. Justement, Véronique nous parlait de ce que ça voulait dire pour les greffés. On va parler au docteur Pierre Marcellet tout de suite après la pause. Vous le connaissez bien, il est intensiviste interniste à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il va pouvoir nous dire aussi aussi ce qui se passe dans cet hôpital-là, au Sacré-Cœur, ou au niveau des soins intensifs aussi, là, ça déborde actuellement. Il est aussi médecin coordonnateur des dons d'organes au Québec. Il va nous dire ce que ça veut dire pour des centaines de personnes qui attendent une seconde chance à la vie, hein, d'avoir une greffe. Vous l'avez vu hier, c'est confirmé. Les greffes de reins, les greffes de dons vivants ont été annulées pour le moment, là, parce qu'on est occupé à d'autres choses. C'est ça, là. Ça commence. Je sais pas jusqu'à quel niveau ça vous inquiète. Dites-le-moi si ça vous inquiète. Je vais vous entendre ce matin là-dessus. Moi, ça m'inquiète parce que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'on va faire des choix. On va choisir entre deux personnes. C'est épouvantable faire ça. On veut pas vivre dans une société qui est comme ça. On a toujours réussi au Québec à se donner les moyens de pas en venir là avec un système de santé plutôt universel, qui est pas parfait, mais qui quand même fonctionne, roule et donne normalement à tout le monde la chance de se faire soigner comme il le mérite, là. Peu importe qui que vous soyez, combien vous gagnez d'argent, puis qui, si vous êtes bon, intelligent, ou peu importe, ça n'a rien à voir. On vous soigne parce que vous êtes malade. C'est ça, normalement. C'est comme ça que ça doit marcher. Est-ce que vous êtes jeune, est-ce que vous êtes vieux, peu importe, on doit vous soigner. Et là, ben, c'est en train d'être malheureusement modifié, ça, cette règle-là universelle à cause de la COVID. Je vous donne nos numéros pour nous joindre, bien sûr, et en discuter, 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Bien sûr, dites-moi si vous, dans votre entourage, vous en connaissez des gens là, qui, comme Véronique Gagnon, ont reçu cet appel pour dire, ben là, pas tout de suite, prenez votre mal en patience. Et dites-nous quel impact ça a pour vous, bien sûr. À tout de suite. Je vous demande si vous craignez de faire les frais de ce fameux délestage des opérations qu'on considérait avant la COVID urgente, mais qui malheureusement viennent de reculer dans les priorités des soins de santé. C'est malheureux là, parce que on nous a parlé hier d'un protocole de priorisation des hospitalisations et surtout des cas. Ça s'appelle le protocole national de priorisation pour l'accès aux soins intensifs. Et on veut pas être obligé de l'enclencher, mais on s'en rapproche, malheureusement. Et c'est toute la situation dans les hôpitaux. Vous avez sans doute entendu également ce matin dans l'émission de mon collègue Paul Arcan, la docteure Lucie O'Patterney, justement, qui est la sous-ministre adjointe à la santé, qui est responsable donc de l'opération de délestage, qui disait qu'il y avait aussi un manque de professionnels de la santé. Il manque des infirmières parce qu'on les envoyait ailleurs, en CHSLD, entre autres. Il y en a beaucoup aussi qui sont tombés au combat, qui sont pas revenus, plusieurs milliers. Il y a tous ces médecins qui peuvent pas fonctionner parce que peut-être eux-mêmes aussi sont-ils atteints. Et c'est un peu le cas de mon prochain invité, le docteur Pierre Marcellet, qui est intensiviste interniste à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il est aussi médecin coordonnateur des dons d'organes au Québec. Il est le directeur de l'ancien centre de prélèvement d'organes de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Bonjour, docteur Marcellet.
Bonjour, Isabelle.
Je disais que vous aussi, vous êtes obligé de travailler de la maison hein, depuis mars dernier parce que vous êtes immunosupprimé. Vous-même avez été atteint d'un cancer il y a quelques années. Vous avez eu une greffe de cellules il y a une dizaine d'années. Donc, ça vous met à risque, vous aussi. Là.
Oui. Moi, en fait, j'ai jamais mentionné ce que vous dites là publiquement. Mais mes collègues, tous les gens avec qui je travaille, le savent, ils me protègent. Et mon médecin lui-même m'a interdit de m'exposer au risque parce que je fais partie des gens vulnérables qui pourraient très bien ne pas s'en sortir ou avoir des séquelles beaucoup plus graves si j'attrapais la COVID. Je fais partie des gens malheureusement vulnérables.
Ouais. Je le disais avec votre accord, bien sûr, docteur Marcellet.
Oui, j'ai accepté de le dire. Parce que je veux pas être perçu ici comme étant une victime, ou je veux simplement conscientiser les gens à une situation qui fait qu'un médecin spécialiste de soins intensifs, on sait que c'est la ressource rare présentement, les soins intensifs, ben ne peut pas aider à la tâche collective parce que je suis immunosupprimé. Donc, pour conscientiser les gens vraiment la dangerosité ou l'ampleur de la crise qui se passe présentement. Puis même si je suis beaucoup plus jeune que les 65, 70 ans, mais malheureusement, comme d'autres, je fais partie des gens qui sont très à risque et qui pourraient contribuer plus que ce que je fais maintenant, oui.
Ouais. Là, vous avez quand même accès à tout ce qui se passe. Vous assistez aux réunions de votre département à distance. Ça ne vous empêche pas quand même de travailler, mais c'est sûr qu'on a moins les deux mains dedans, hein?
ben, je me sens moins utile que ce que je pourrais être. Je vais à l'hôpital occasionnellement. À chaque fois que je passe par là, mes collègues me disent « Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en, t'as pas d'affaires ici, il y a trop, c'est trop dangereux. » Parce que les gens me connaissent, ils savent ma condition. Mais pour certaines tâches, je quand même, en faisant attention, là, je vais à l'hôpital. Mais je me sens moins utile. Vous savez, moi, j'adore pratiquer la médecine. Pour moi, c'est pas travailler, c'est une source de satisfaction immense que de pratiquer la médecine et de pouvoir tenir la main d'un patient, ce que je peux pas faire à cause de ma condition.
Oui. Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont profondément perturbés par tout ce qui se passe, qui ne savent plus comment le dire à tous ces citoyens qui ne sont pas encore convaincus de l'urgence. Je pense que vous pouvez témoigner de ce qui se passe à votre hôpital, à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, où là, ça déborde aussi ce matin. C'est ça la situation, Dr Marcellin? C'est ce qu'on nous a décrit hier après-midi, c'est-à-dire on est vraiment à la veille d'enclencher ce fameux protocole où on va être obligé de choisir qui mérite de vivre puis qui va devoir attendre.
En fait, oui, c'est ça nous et ça c'est vrai pour tous les professionnels du Québec. Là. On est catastrophés par justement ce protocole. On sait qu'on a le devoir d'être prêt si on arrive là, mais on ne veut pas en arriver là. Et c'est cette ambivalence, c'est-à-dire que c'est comme on refuse d'avoir à en arriver là, mais si, par exemple, la situation arrive comme en Italie, où il faudra choisir, on ne peut pas, par aveuglement volontaire, décider de ne jamais prendre connaissance de ce protocole parce qu'on ne voulait pas y arriver. Et on y arrive, puis malheureusement, on ne le souhaite pas. Fait qu'il faut, à tout le moins, pouvoir objectiver et essayer de prendre les moins pires décisions possibles si on en arrivait à la situation où, malheureusement, il y a trop de demandes pour le nombre de places. Puis après ça, ben comment survivre ou comment vivre avec des décisions comme ça après. Ça va être très, très douloureux pour ceux qui auront le poids, ceux qui auront apporté le poids de ces décisions-là ultérieurement.
Est-ce que comme médecin, vous ne voulez pas choisir?
Non. On ne veut pas en arriver là et actuellement, puis ça, c'est vrai pour tout le monde, tous les gens qui contribuent à établir ce protocole-là se disent il faut qu'on fasse plus pour pas arriver là, il faut qu'on fasse plus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on pousse de plus en plus toutes les limites possibles pour ne jamais en arriver à ça. Et je suis convaincu que tout ce qui doit être fait pour ne pas y arriver est en train de se faire, c'est-à-dire pousser le bouchon plus loin, plus loin, plus loin, réaffecter des gens qui travaillent dans d'autres tâches dans les hôpitaux pour en faire des gens qui vont venir assister pour des soins aigus pour ne pas arriver à ça. Mais voyez-vous, quand on voit ça, puis ensuite, de l'autre côté, on voit, c'est sûr qu'il y a des gens qui, parfois, vont prendre certains risques face aux conditions là, de sanitaires et malheureusement vont l'attraper, mais pas par malveillance. Puis ces gens-là, j'en veux pas du tout. Mais ce qui, moi, me rend extrêmement triste, c'est de voir qu'il y a des gens qui sciemment vont faire exprès pour faire de la provocation, pour dire qu'ils ne veulent pas respecter les règles. Ces gens-là, c'est comme, pour moi, l'équivalent, c'est comme faire un pied de nez aux professionnels de la santé. C'est comme leur dire, ben vous tombez malade et moi, je m'en fous. Mais il y a des professionnels qui tombent malades, il y a des gens comme tantôt Véronique qui n'aura pas sa chirurgie. Et en face, on a des gens qui décident de contrevenir sciemment aux règles sanitaires, disant qu'on n'a pas à eux à brimer leur liberté de sortir le soir. Je comprends que c'est bien dommage. Mais c'est des Véroniques qui ne seront pas opérées, c'est des gens qui peut-être ne pourront pas accéder aux soins intensifs parce qu'on n'aura pas réussi à prendre le contrôle sur la pandémie. Et il faut que tout le monde ensemble, on se tienne la main, on se tienne les coudes, puis on participe à justement à planir là, cette fameuse courbe, puis à soulager le personnel de la santé et à permettre la réouverture des lits de soins intensifs et permettre de recommencer les greffes des organes et éviter ces dommages collatéraux-là.
Oui, vous allez nous parler des greffes là, après la pause, parce que pour tous les gens là, qui sont sur la liste d'attente de Transplant Québec, c'est profondément douloureux d'entendre ce qu'on a entendu hier de la part du ministre de la Santé, puis de la sous-ministre, puis du premier ministre Legault. Vous avez bien raison de parler de tous ceux là, qui sont bien fiers de de montrer à la face du monde leur constat d'infraction. Là, il y a une jeune femme de la région de Sherbrooke là, qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle allait les collisionner, l'étiquette à 1 500 $, puis que liberté, les amis, je vais tout faire pour préserver ma liberté. Moi, j'en reviens pas de ce genre de personne, docteur Marcel.
C'est qu'on identifie, c'est comme si on avait mal identifié le méchant, là. C'est pas le décideur qui essaye de trouver les moins pires solutions. Le méchant, c'est le virus. Fait que vous trompez de cible. C'est le virus le problème. C'est pas les gens qui essayent de trouver des solutions pour minimiser les dommages dans la société. En tout cas,
Puis je pense qu'on peut se comparer aussi. On aime ça au Québec, là. Quand on se compare, on se console. Ben, compare-nous à d'autres endroits où le concept de liberté est pas mal moins élastique qu'ici, là. Je pense qu'on n'en est pas rendu. On n'est pas tous brimés, là. Il y a encore du monde qui peut sortir, faire ce qu'il veut. Heureusement, d'ailleurs, mais je veux dire, ce qui concerne la liberté, là, je pense qu'on pourrait avoir tout un débat là-dessus, mais on aurait vite fait le tour de toutes nos espèces de prétendues brimades, là. On va aller à la pause.
Oui. Si leur fille ou leur fils avait besoin d'un organe, peut-être qu'ils verraient ça différemment. Il faut le voir de façon bienveillante. Là.
Exactement, tout à fait. Vous restez avec nous, bien sûr, Dr Pierre Marcellet, qui est interniste à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, intensiviste, médecin coordonnateur des dons d'organes. Il va nous en parler d'ailleurs de la situation des greffés ou des futurs, enfin ceux qui espèrent recevoir une greffe au cours des prochains mois. C'est sûr que là, avec ce protocole de priorisation des soins intensifs qu'on espère ne pas être obligé d'enclencher sous peu. C'est extrêmement délicat d'aborder ces questions-là, bien sûr. Je veux avoir votre opinion là-dessus. Nos lignes sont pleines, on va vous donner la parole. Dites-moi de quelle façon vous réagissez quand vous entendez ça, puis aussi si vous êtes parmi ces citoyens touchés par ce délestage, si vous avez déjà eu des appels de votre médecin pour dire « Regarde, ce ne sera pas tout de suite pour toi, on est obligé de te repousser ça. » Bien sûr, vous m'appelez au 514-790-9850. On parle bien sûr du fameux délestage parce que là, ça prend des proportions évidemment qui nous effraient, là, qui nous inquiètent profondément. Je vais vous entendre un peu, chers amis auditeurs. Il y a Garcia là qui veut nous dire un peu ce qu'elle voit comme agente de sécurité dans un hôpital. Bonjour Garcia.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, en fait, je travaille dans plusieurs hôpitaux comme agent de sécurité. En première ligne, j'ai les deux côtés de la médaille. J'ai les côtés des employés dans la santé qui sont épuisés, ils n'arrivent plus à fournir malgré tous les efforts qu'ils font. J'ai les côtés aussi des patients qui sont découragés, qui n'arrivent plus à avoir des soins comme avant. Puis ça me touche personnellement parce que j'ai des enfants qui sont suivis à Sainte-Justine, qui doivent avoir des suivis étroits, puis qui sont délaissés aussi à cause de ces délaissages-là. Ça me fâche aussi de voir qu'il y en a aussi les côtés des employés qui font des efforts, mais ceux aussi qui sont sceptiques. Ceux qui fument à l'extérieur des hôpitaux, face dans la face, pas des masques, une collée sur l'autre. Puis c'est des employés.
Ouais.
C'est des employés du domaine de la santé. Je veux dire, quand on agit comme ça, c'est parce qu'on est révolté contre le système, je comprends. Mais le système, il essaie de nous protéger. Parce que sinon, on finira jamais à passer à travail. Puis quand je vois du monde comme ça qui ne respecte pas, moi, je viens d'un pays communiste. Moi, je viens de Cuba.
Mm-hmm.
Moi, je sais quoi pour respecter les droits de la personne.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui fait notre gouvernement? C'est justement nous respecter pour nous protéger. Fait que vous voulez voir c'est quoi pour respecter, allez vivre dans un pays communiste, puis après, venez vous plaindre.
Ouais. Merci, Garcia. Merci beaucoup. Alain est avec nous. Bonjour.
Ben bonjour, bonjour Madame Maréchal. Je suis pas habitué d'appeler, mais là ça me met en maudit, mais en même temps ça me met triste le reportage que la dame que vous avez reçue
Véronique Gagnon,
porte-parole, puis elle se donne la peine en plus de continuer à travailler. Je veux pas trop la féliciter non plus parce que tu sais c'est comme dire mais c'est triste, ça m'a fait pleurer tout à l'heure, j'étais un émotif de nature.
Mm-hmm.
Puis quand je voudrais mettre juste une parenthèse, parce que quand M. Arcand a interviewé la présidente du syndicat, je sais pas si ça représente vraiment ses membres pour dire qu'ils sont épuisés.
Mm-hmm.
Tabarouette, quand on entend les reportages de ce que la dame a vu présentement,
ouais.
Elle devrait avoir honte de s'ouvrir son esti de gueule, tabarnak. Mm-hmm. Je m'excuse là.
Mm-hmm. Je sens que
alors,
vous
avez... Elle va se fermer la trappe, Colin. C'est quoi son problème? Mm-hmm. Fallait qu'elle s'énerve pour faire ouais. son one-woman show, là, présentement. Là.
Je comprends, Alain, ce que vous dites. Puis je comprends votre colère, votre frustration. Il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose. Et c'est ça que ça fait, là. On commence de plus en plus à parler d'iniquité, d'injustice dans le traitement. Et va falloir que ça change, ce ton-là. Bon, Alain était très fâché, évidemment. On est avec nous, Denis. Bonjour, Denis.
Oui. Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien.
OK. Écoute, suite à les gens qui se promènent le soir, moi, j'ai aucun problème, hein, mais qui se rendent à l'hôpital puis qui allaient donner un coup de main après 8 heures.
Ouais.
Fait que peut-être ça les amènerait à voir la situation différemment. Mm-hmm. Puis peut-être qu'au niveau des contraventions, on pourrait rajouter, quand on va arriver au délestage, puis on va dire, OK, la madame n'aura pas son transfert de rein,
mm-hmm.
puis elle va mourir, on pourrait peut-être rajouter sa contravention le nom de la personne qui est décédée à cause de elle. Mm-hmm. T'sais?
Mm-hmm.
Peut-être que ça porterait plus d'impact aux gens à comprendre qu'ils deviennent, en collaboration avec le COVID, les tueurs de ces gens-là.
Ouais.
Fait que c'est juste de vraiment toucher la corde sensible des gens pour qu'ils comprennent que, comme on l'a dit tantôt, c'est le COVID l'ennemi. C'est pas le gouvernement, puis c'est pas les gens alentour. Les policiers font les jobs. Le gouvernement fait ce qu'il peut avec ce qu'il a comme information. Sauf que là, je pense que les gens vont faire un tour à l'urgence.
Ah oui. En fait, on veut pas trop qu'il y aille, pour pas l'engorger, mais juste pour être conscient de ce qui se passe. Puis, qu'est-ce que ça nous demande véritablement? On peut se poser la question, là. Qu'est-ce que ça nous demande tant que ça, là, de se forcer?
Quel passé?
Oui.
Quel passé le week-end de vacances en Bosnie? Puis, mieux qu'ils reviennent, ils vont comprendre.
Ah, ouais. Ouais. Merci.
C'est ça le problème. Mm. On a tout dans le bec.
Ouais, c'est ça. Merci, Denis. Merci bien. Patrice, bonjour.
Bonjour, madame. Moi, je me demande pourquoi la contravention n'est pas mise dans notre dossier de santé. Comme ça, quand le choix arrivera, on saura que cette personne-là n'a pas respecté les règles.
Mm-hmm. Si vous saviez le nombre de... Hey, Patrice, vous saviez là, le nombre de citoyens qui m'écrivent en ce moment puis qui me disent, qui me suggèrent exactement ce que vous venez de dire. Là, de plus en plus...
C'est juste la logique. C'est juste la logique. On va pas soigner quelqu'un qui a pas respecté la règle. Puis là, vous parlez de délestage, de report, puis on choisit qui vit, mais faut qu'on se rouvre les yeux, c'est déjà commencé.
Oui, c'est ce que certaines personnes...
Il y a des gens qui ne sont pas traités pour le cancer actuellement, qui en mourront parce que d'autres n'ont pas respecté la règle.
Mm.
Pensez que c'est pas déjà commencé, ça, là. C'est vraiment, là, se boucher les yeux.
Oui, tout à fait. Vous avez raison. D'ailleurs, les médecins le disent bien. Il y a une médecin qui parlait des nouveaux cas de cancer du sein, entre autres. Et elle dit que ceux qu'elle traite en ce moment sont plus avancés que ceux qu'elle pouvait voir avant la COVID parce qu'ils ont été dépistés plus tardivement. Puis là, je vous donne l'exemple du cancer du sein parce qu'une médecin en parlait, la docteure Mike-Kim Gervais. Mais vous prenez tous les cas de cancer. Je reviens peut-être au docteur Pierre Marcellet, intensiviste interniste à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il est médecin coordonnateur également du don d'organes. Avant de parler du don d'organes qui est mis à mal en ce moment par la COVID et par tout ce problème de délestage, docteur Marcellet, il est effectivement ça, le fait que c'est vrai qu'on avait déjà un peu ce problème-là qui pointait là, avant même que la COVID vienne aggraver la situation. On s'en était parlé, vous et moi, là, déjà de cette difficulté puis du fait qu'éventuellement, il y aurait des décisions difficiles parce que le système de santé, déjà, il était ça forçait. Là. Alors, imaginez maintenant cette idée là, que vient de suggérer Patrice, que ceux qui n'ont pas respecté les règles ne soient pas soignés de la même façon. Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est logique?
En fait, il existe une littérature qui s'est déjà penchée là-dessus sur qu'est-ce qui a l'effet le plus efficace à l'égard d'une société. Est-ce que c'est la culpabilisation ou la sensibilisation, la responsabilisation? Puis, même si on disait, puis c'est pas que je suis contre ou pour cette manœuvre-là de dire, bon, mais vous n'avez pas respecté les règles, donc vous avez une tâche à votre dossier. Mais on sait que ça n'aura pas d'effet. Prospectivement, ça n'aura pas d'effet. Ça ne découragera pas les dissidents. Ce qui pourrait mobiliser les dissidents, c'est la responsabilisation. Culpabiliser les gens, c'était démontré que ça ne marchait pas. Les menacer, pour une petite proportion peut-être, menacer de mettre une tâche au dossier, mais les gens ont cette pensée magique de dire, ben moi, de toute façon, je suis pas malade, puis je serai pas malade. Donc, ce déni-là. Là où il faut travailler très fort, c'est il faut pousser sur la sensibilisation, responsabilisation, c'est-à-dire avec laquelle mauvaise décision serez-vous capable de vivre plus tard? Si, par exemple, votre mère, votre frère, votre soeur, votre fils n'aura pas une transplantation, vous êtes convaincu que vous ne serez pas malade, mais on tient à nos proches, puis ce qu'on craint, c'est qu'un de nos proches tombe malade un jour. Je ne veux pas que mes enfants tombent malades. Si un jour, un de mes enfants a besoin de ceci ou de cela, mais que le système est surchargé, puis qu'il y aura des choix à faire, mais moi, j'aurais fait un pied de nez à la société en disant, ben moi, je ne veux pas brimer mes petites libertés, puis je ne veux pas me faire des petits sacrifices. Ben c'est pour tout le monde, ces sacrifices-là, incluant pour vous. Et c'est puis je pense qu'actuellement, les décideurs s'y prennent de la bonne façon. Jusqu'à maintenant, se sont pris de la bonne façon, ont tenté de sensibiliser, responsabiliser, conscientiser. Il faut que les gens s'éduquent, il faut que les gens lisent, mais lisent les bonnes choses, lisent la science, comprennent la physiologie. On a tous eu des cours de biologie à la petite école, là. Ben, mettons-les en application, là. Comprenons ce que nous faisons. Et je pense que ça nous fera une société juste plus riche et plus en santé. Mmh.
En ce qui concerne toutefois le don d'organes, ça a des impacts déjà, là, ce problème de délestage.
Moi, je suis convaincu, oui, tout à fait. On pourra jamais, vous savez, une situation qui n'est pas arrivée, comme c'est pas arrivé, on ne saura pas le dommage que ça a créé. Mais juste pour vous donner une idée, là, en temps normal, en dehors d'un contexte de pandémie, ça je l'ai dit mille fois à la radio, dans les journaux, le Québec fait environ le quart de ce qui est possible de faire. Ça, là, il y a des chiffres à l'appui. Pourquoi on ne fait que le quart? C'est que les ressources déjà, on sait, en temps normal, les ressources de la santé, c'est des ressources qui sont limitées. Mm. Les ressources ne permettent pas d'accéder à ce plein potentiel de transplantation d'organes. Maintenant, comme en temps normal, les médecins travaillent dans ce système-là, inconsciemment ou consciemment, les médecins font des choix. Ils se disent, bon, ben j'ai un donneur potentiel, exemple, votre conjoint ou votre enfant a un accident d'auto ou une hémorragie cérébrale. Et le médecin va se dire, bon, ben est-ce que je m'embarque dans un don d'organes qui risque de consommer des ressources pendant 24, 48, 72 heures et que peut-être, à la fin, il n'y aura pas d'organes transplantables parce qu'aucun des organes sera bon. Mm. Puis donc, il va se dire, ben non, ça je le ferai pas. Puis parce que les ressources devraient être consacrées à autre chose. Imaginez maintenant, on est rendu en période COVID. Même si on n'a pas annulé toutes les autres transplantations, le médecin qui auparavant hésitait ou de temps en temps embarquait ou s'embarquait pas dans un processus de don d'organes qui était un long processus difficile, pénible, triste et moralement extrêmement difficile, là, il est dans une situation de COVID où il sait qu'il y a du personnel épuisé, des infirmières qui pleurent, des infirmières qui arrêtent de travailler, qui va mobiliser des ressources de soins intensifs pour une situation d'un donneur d'organes qui, oui, pourrait sauver des vies, mais qui, à la clé, va peut-être aboutir à rien, à puis coûter 72 heures de l'utilisation des soins intensifs supplémentaires. Fait qu'automatiquement, ça décourage, ça c'est certain. Si on faisait le quart avant, mais peut-être qu'on fait maintenant un huitième de ce qui est possible de faire. Fait que quelque part, c'est certain. C'est certain que ça influence le don d'organes et la transplantation au Québec.
Ça veut dire qu'en ce moment, il y a des gens qui sont sur la liste de Transplant Québec qui n'auront jamais leur organe, qui vont mourir avant. Là.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis ça, on ne saura pas. Les chiffres, en fait, on va savoir qu'il y aura eu moins de transplantations, mais on ne saura pas le nombre de patients qui n'auront pas été signalés par des médecins ou des familles qui n'auront pas par malveillance. Parce que le médecin va, lui, de son côté aussi, essayer de prendre la moins pire des décisions, c'est-à-dire, est-ce que je le propose à une famille qui pleure la perte d'un être cher, un don d'organe qui, de toute façon, risque de ne pas se produire parce que peut-être qu'il n'y aura pas d'organe transplantable, et en plus épuiser des infirmières, les surcharger, les surtaxer encore plus, qui vont être exposés à un risque parce que l'infirmière qui s'occupe d'un don d'organe pleure aussi de la perte de cette personne-là et voit la famille au chevet. Donc le médecin va quelque part se retenir, même s'il n'en est même pas conscient. Mais il va se retenir parce qu'il dit, ah, ici, ça n'arrivera pas. Il va être convaincu que ce n'est pas possible et l'option du don d'organe ne sera pas proposée.
Mmh. Je comprends tout à fait. Il va vouloir économiser le système déjà mis à mal, finalement.
Voilà, voilà. Parce qu'il va dire, l'essence qu'on y arrive sont trop minces compte tenu du coût des ressources à utiliser.
C'est bien malheureux tout ça. Vraiment bien malheureux tout ça. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup, Pierre Marcellet, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Docteur Pierre Marcellet, il est intensiviste interniste à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, médecin coordonnateur des dons d'organes au Québec. On va s'arrêter ici, très courte pause, parce qu'on revient avec vos commentaires. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir prendre la parole. On va vous donner l'occasion de le faire le plus nombreux possible après ceci. Et j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires, puis beaucoup de gens qui écrivent, fait que je vais prioriser Paul Brunet. On priorise en ce moment. Il est président porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Merci de nous parler, Paul. Votre réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit, par rapport à ce protocole de priorisation, ouais. Là, on y est quasiment. Il y a quelqu'un qui m'écrit qu'on l'avait enclenché déjà au printemps. Sa fille est travailleuse de la santé. C'est une dame qui m'écrit ça. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que là, on est obligé de faire des choix déchirants, puis que ça va juste s'empirer s'il n'y a pas effectivement prise en compte de toute la situation par les réfractaires.
Oui, Isabelle, en effet. Mais par contre, ce que je comprends, c'est que si vous arrivez à l'article de la mort à l'urgence, on va probablement s'occuper de vous du mieux que l'on pourra.
Mais j'espère, Paul.
Si, ben oui, mais on est rendu là. Si, par exemple, il y a une chose qui m'inquiète, moi, c'est la liste de plus de 120 000 patients qui attendent pour être opérés. Là.
140 000 même, chirurgie en attente. Ouais.
Alors, là-dedans, il y a des choix tragiques qui devront être faits. Je sais qu'il y a un comité qui se penche là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que cette liste-là était déjà quand même assez accumulée parce qu'il y a du monde qui a pris des vacances, qui a pris des congés, puis qui a ralenti certaines de ses activités. Certaines associations de nos professionnels de la santé nous déclaraient maintenant sans plus de gêne. Hein? Au début, il était gêné, mais après ça, il n'était plus. Cet été, on va couper les soins puis les rendez-vous de cardiologie ou de chirurgie. On coupe ça de 25 % sans en vacances, arrangez-vous. Personne intervient, personne sanctionne qui que ce soit. Tout va bien, Mme Lamarquée. Fait que là, on ramasse ces listes-là. Il arrive le drame qui arrive. Fait que on était déjà hypothéqués. Puis là, on nous dit aujourd'hui, faites attention, ça se peut qu'on soit obligé de prioriser. Oui, mais si on avait fait notre job avant, si du monde avait pris ses responsabilités avant, si le ministre de la Santé ou la ministre de la Santé de l'époque avait pris ses responsabilités, dire aux associations, un instant là, il y a des choses urgentes dont vous devez vous occuper, mais on n'a pas, il y a juste vous et moi, je pense, qui avons critiqué cette situation-là l'été passé, l'été d'avant. Personne n'intervient, tout est beau. Puis là, aujourd'hui, on nous dit, ben là, écoutez, il va falloir faire des choix. OK, c'est vrai, on est dans une crise historique, j'en conviens. Mais il y a des affaires dont on a traîné, où on s'est traîné les pieds depuis quelques temps, sinon quelques années.
C'est sûr.
Puis là, bon, on ramasse ce qui arrive.
C'est ça, exactement. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que là, c'était déjà fragile avant, puis fragile. Puis tu sais, quand tu regardes ça, Paul, là, on parle de répercussions d'hospitalisation en soins intensifs de même pas 1500 personnes, de 1436 là, jusqu'à hier. 1436 personnes atteintes de la COVID qui sont traitées dans les hôpitaux depuis le début.
Ouais.
Et le système est sur le bord de craquer. Là.
Oui, et bon...
Ça prenait pas... C'est beaucoup, puis en même temps, c'est peu par rapport à tout ce qu'on dit depuis presque un an. Donc... puis on n'en veut pas plus, là, comprenez-moi bien, mais ce que je veux dire, c'est une pression qui, finalement, c'était sur le bord de toute façon. Là. On est dans un système qui était hyper fragile.
Déjà, ça, c'est l'héritage du lean management, hein, emprunté au système de production manufacturière.
C'est mais c'est pas parce qu'on paye pas, hein?
Non, c'est pas parce qu'on paye pas, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a du monde qui a décidé d'en mettre le moins possible. Juste ce qu'il faut... selon l'histoire ou l'historique de ce qui s'est passé. Fait qu'on est pris avec cet héritage-là, il arrive la COVID, et j'espère et je compte sur nos professionnels de la santé, tout le personnel qui travaille à pied d'œuvre pour qu'on soit le mieux traité, mais il y a l'historique en avant qui fait qu'on ramasse les pots cassés dans l'arrière.
Mais comme on est chez nous, hein, au Québec, on le sait, il n'y a pas grand monde qui va avoir des comptes à rendre.
Mais avec vous, Isabelle, on va s'assurer que les gens n'oublieront pas, surtout pas les politiciens.
Ouais. Merci beaucoup, Paul Brunet. Protection des malades, Conseil pour la protection des malades. On s'arrête ici tout de suite après la pause. On va parler télétravail, c'est connexe. À tout de suite.